I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, en public du Bel Air, en effet, le bar de la maison de la radio, Muriel Joudet, Thierry Chaise et Antoine Guillot pour parler ensemble de Nous finirons ensemble, Guillaume Canet, Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Tremblement de Jairo Bustamante. Il y aura un coup de cœur de Thierry Chaise pour Gloria Bell de Sébastien Lelio. Et nous ouvrons cette dispute avec Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, ce film qui se présente comme la suite des Petits Mouchoirs. Donc Thierry Chaise, premier travail ce soir, résumé de l'épisode précédent avant de parler de ce nouveau film.
C'était il y a 9 ans, une bande d'amis qui vivent à Paris mais qui passent chaque été dans une maison du Cap Ferré, maison détenue par l'un d'eux, restaurateur à succès, Max, incarné par François Cluzet. Ça aurait dû être un été comme les autres, sauf que cet été-là, juste avant, leur meilleur ami, incarné par Jean Dujardin, meurt dans un accident de scooter.
Enfin, il est renversé. D'abord.
Renversé, oui.
Parce que meurt...
Voilà. Alors, mais bon, des années sont passées, donc maintenant on sait.
Ah non, mais c'est des résumés de l'épisode précédent que moi que je voulais.
Voilà. Et à partir de là, évidemment, ces soi-disant amis, le groupe d'amis va éclater entre ceux qui veulent à tout prix aller faire ces vacances comme si de rien n'était, et ceux qui veulent rester près de leur ami à l'hôpital. Et alors que ce groupe qui n'a d'amis a priori que de nom est tenu à bout de bras par Max qui les aime autant qu'il les déteste, eh bien on finit alors beaucoup en larmes à la fin du premier volet. Ce premier volet a réuni plus de 5 millions d'entrées, c'est le plus gros succès de toute la carrière de Guillaume Canet réalisateur. La suite arrive, une suite, on ne surfe pas sur la vague, c'est 9 ans après. Et on redémarre, en effet, là où on les a laissés, Ludo est mort, ils ne se sont plus vus depuis des années et ils vont revenir et se retrouver. Finiront-ils ensemble, point d'interrogation.
Le résumé de votre sentiment que vous avez développé ensuite, Muriel Joudet.
Pour moi, c'est un film tranquillement obscène.
Antoine Guillot.
C'est tout simplement un film bien de son temps, puisqu'il s'agit de retour à l'ordre et de préservation du capital.
Thierry Chaise.
Une suite qui enfonce le clou.
Je vais pas bien. J'ai besoin d'être seul.
Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête?
Tu m'as manqué, mon pote.
Alors on va peut-être pas rester, hein?
Ah ouais, carrément.
Béron arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer.
On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire.
Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde!
C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein.
Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi.
Mais tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas tes bons grands frères à tous.
Je vous appelle, je voulais détecter depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mila se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus.
Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout.
Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses.
Il faut qu'elle dorme.
Et Catherine, ça me fait plaisir.
Mais non !
Ouais, chiant, Paris Poppins.
Bah, tu veux pas de moi, alors.
Ils ont prévu de rester combien de temps ?
Bah, la semaine.
Oh.
Après avoir écouté cette bande-annonce de Nous finirons ensemble, vous allez pouvoir développer autour de ce nouveau film de Guillaume Canet, Thierry Chaise, enfoncer le clou, quel clou ?
Ben, le clou de ce qui était vraiment le film et la manière dont il a été ressenti. En sortant dans tous les cas des Petits Mouchoirs et de son énorme succès, le film était présenté comme une ode à l'amitié. Et moi, je trouvais vraiment que, et ce qui m'intéressait dans le film, c'est que c'était l'inverse de ça, c'est que c'était un portrait assez cynique, assez amer. Je suis assez d'accord avec ce que disait Muriel tout à l'heure, mais du coup assez dérangeant, et que je trouvais ça intéressant qu'un film populaire d'un seul coup embrasse ce côté-là. Sauf que dans Les Petits Mouchoirs, il y avait vraiment très fortement un côté pathos qui fait que d'un seul coup on voulait à tout prix vous faire pleurer. Là, je trouve moi en tous les cas qu'il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on a ce côté noir. Je trouve que Guillaume Canet en fait est double. C'est-à-dire comme acteur, il y a une espèce de tentative de construction dans sa carrière. On le voit lorsque, encore là, il a été chez Assayas. Donc, il est appelé vers des metteurs en scène qu'on aime ou pas le film, mais qui sont a priori éloignés de ce qu'on pouvait penser au départ. Et comme metteur en scène, tous ces films sont des films extrêmement personnels, avec des personnages souvent extrêmement désagréables. Et je pense qu'il y a quelque chose que je trouve justement d'assez fascinant lorsqu'on fait un cinéma populaire, de pas caresser forcément le public dans le sens du poil et d'aller vers, et lui il les définit d'ailleurs comme des personnages qui sont les traits de sa personnalité, donc d'aller vers une sorte d'auto-flagellation, une auto-dérision par moment qui, moi, m'intéresse dans un film populaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Les Petits Mouchoirs, on disait, c'est un entre-soi de bobo, que ça réunit 5 millions d'entrées, ça va donc plus loin. Le démarrage là aussi est encore plus fort. Donc il y a quelque chose pour moi qui raconte en effet une époque, d'où le fait que ce soit en effet désagréable, d'où le fait que par moments ce soit l'humiliation qui soit presque insoutenable pour le spectateur. C'est des personnages qui soi-disant sont amis et qui en prennent plein la figure tout le long. Et moi je trouve ça intéressant dans un film à tendance et à vocation populaire.
Antoine Guillot, vous qui aimez souvent, vous le dites, hein, les personnages désagréables, les films déplaisants, enfin je mets des guillemets autour de déplaisants. Là, j'ai bien l'impression que vous n'avez pas trouvé votre compte.
Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il creuse complètement ça, qu'il soit complètement conscient de la dimension déplaisante du personnage. C'est-à-dire que vous dites qu'ils s'en prennent plein la gueule, c'est surtout les personnages périphériques qui s'en prennent plein la gueule. On peut prendre l'exemple de cette nounou qu'on a entendu traiter de Mary Poppins.
C'est surtout elle qui prend.
Dedans, donc il y a tous les défauts, parce qu'elle est grosse, donc elle prend de la place, donc on peut lui dire vraiment la grosse. Elle rappelle quand même que de temps en temps, il faut s'occuper des gamins, et les gamins sont très évacués de ce film. C'est sans arrêt, on les repousse à la marge jusqu'à ce qu'ils aient une utilité scénaristique, mais sinon, on n'en veut pas de ces gamins. Et puis surtout, elle réclame ses droits, et alors si les employés commencent à faire chier, c'est pas possible. Et c'est vraiment l'idée de la chose. Donc elle finira par être évacuée réellement du film sur ce mode-là. Et donc les personnages s'en prennent pas tant plein la gueule, sauf celui de Laurent Lafitte, donc qui est le clown de service à qui on va faire subir de manière burlesque des choses qui sont graves pour les autres personnages quand ça leur arrive, mais quand ça arrive à lui, c'est juste l'occasion de rigoler. Il a une sorte de fonction comme
très
ça.
Très particulier, voilà, un personnage. Déjà, dans Les Petits Mouchoirs, c'était particulier.
Alors, c'est assez curieux.
C'est encore plus bizarre.
Alors, moi, je suis dans le cadre de celui qui n'a pas vu Les Petits Mouchoirs, hein, et donc je me suis retrouvé dans une salle où il y avait beaucoup de monde, une salle vraiment très remplie, assez âgée, hein, je dois le dire, mais qui frétillait d'aise chaque fois qu'un personnage arrivait, se réjouissant de le retrouver tel qu'il était. Alors, moi, je me suis plutôt retrouvé dans la situation où vous êtes invité à une soirée où vous ne connaissez personne, les gens ne vous sont pas particulièrement sympathiques, manifestement il y a du passif entre eux, et vous les regardez faire la fête, parfois rire beaucoup, et vous êtes là sans partager du tout ce qui se passe, mais n'ayant pas non plus la force de partir.
Donc, ça peut avoir parfois regarder... un certain intérêt, ce
oui,
genre
mais,
de situation.
L'intérêt que ça peut avoir, c'est un intérêt sociologique à regarder. Et effectivement, ça filme une certaine classe sociale qui, pour moi, n'est pas tellement des bobos, ou alors c'est les bobos, quoi. C'est plutôt une certaine... Ouais. Une certaine
les nouveaux entrepreneurs quoi.
Voilà, c'est pour moi c'est pour ça que je disais que c'est un film de son temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement de voir les gens qui ont gagné de l'argent assez récemment, qui ont très peur de le perdre, puisque là une des grandes angoisses du film, c'est d'être considéré comme un raté, d'avoir perdu sa vie, donc on feint d'avoir de l'argent pour ne pas perdre ses amis, c'est-à-dire ce qui relie les personnages. Mais alors, tout ça en soi, ce serait intéressant s'il y avait un vrai regard dessus. Alors vous parlez de mise en vous qualifiez gentiment Guillaume Canet de metteur en scène. Mais il faudrait qu'il y ait une mise en scène, par exemple, ce qu'il n'y a manifestement pas du tout. C'est-à-dire que le principe même de ce film de bande de potes, et d'ailleurs, on n'en peut plus de les entendre s'appeler mon pote sans arrêt. Et à un moment, j'ai failli les compter. Je me disais, c'est insupportable, ce mon pote, comme ça tout le temps. C'est que on va mettre plusieurs caméras pour essayer de capter à peu près ce qui se passe dans la scène, et on va monter ça je ne sais pas si les plans sont tirés au hasard ou quoi, mais
il y a... le directeur de Lars von Trier.
Voilà, il y a un algorithme. C'est ça. Ça pourrait être ça. Non, mais ça pourrait être ça parce qu'il n'y a aucune logique dans le raccord d'un plan à l'autre, d'une valeur de plan à l'autre. Pourquoi là, on passe d'un gros plan à un plan large? Pourquoi, en général, l'esthétique reste quand même l'esthétique télévisuelle habituelle du gros, du champ contre champ, gros plan visage pour que ça passe bien sur l'écran. Sauf que l'écran est très large.
Oui.
Donc, on ne comprend. Voilà. Il y a un vrai problème. Alors, une fois qu'on évacue ce problème de langage cinématographique, il manque un vrai regard pour le coup, alors on va pas monter très haut, mais ça, ne serait-ce qu'un regard à la Claude Sauté sur ce qu'est une réalité sociologique.
Va, c'est très haut, Claude Sauté.
Quand j'ai très haut, je voulais pas remonter, très loin. Mais
je préfère Jean-Marie Poiret, mes meilleurs copains.
Mais précisément,
très largement.
Non, mais précisément.
C'est un très beau film qui
exactement.
Qui c'est-à-dire qu'il
manque une vraie position de Guillaume Canet par rapport à ce qu'il filme. Je pense que malgré lui, il exprime certaines de ses angoisses, qui sont effectivement est-ce que j'aurai encore mes amis quand j'aurai plus d'argent et quand je ferai plus de succès avec mes films. Mais il n'a pas un regard de cinéaste sur la réalité qu'il filme. Et c'est ce qui manque diablement.
Je vais vérifier, les scénarios et dialogues sont signés Guillaume Canet avec Rodolphe Loga.
Comme Rock'n'Roll, comme le précédent.
Comme le précédent. On n'a pas encore entendu vraiment Muriel Joudet sur ce film de Guillaume Canet. Nous finirons ensemble.
Oui, Antoine parlait d'esthétique, de grammaire télévisuelle, et de fait, ce film est fait pour passer sur le câble à 21h. Il est formaté pour ça, et le film cartonne, je tiens à le préciser, donc il a fait 368 000 entrées en 24 heures, juste derrière Avengers. Voilà, c'est nos Avengers français. On a les Avengers qu'on peut. Et alors, je parle de ce carton parce que pour moi, il est parlant quand on voit le film, parce qu'il nous met dans une position, nous critiques, très dérangeante. Dans la position, en fait, des rabat-joie. On a beau analyser, intellectualiser le film, chercher à trouver une sorte d'impensée dans le film. Tout ce qu'on pourra dire sur le film se cogne, s'atomise contre le succès totalement délirant du film, donc on peut on doit se taire tout simplement, on doit se taire parce que tout ce qu'on dit est inopérant, tout ce qu'on dit en fait est inefficace parce que le film marche, donc si le film marche, le film a raison. Et moi j'ai vraiment pris ça en voyant le film en plein visage, en pleine figure, tout simplement parce que je me suis dit que toutes les gens qui avaient concouru à faire ce film, distributeurs, producteurs, acteurs, Guillaume Canet, se disent que le show business a raison. Et quand j'ai vu le film, alors j'utilise le mot show business parce que pour moi c'est celui qui représente le mieux le film. Et ce show business, c'est celui qui se trouve dans le film. C'est-à-dire que le film nous raconte ça. Le film nous dit, on a beau faire un film extrêmement mal filmé, extrêmement mal joué, avec des acteurs surpayés, même vraiment beaucoup trop à mon avis, parce qu'il y a le show business dans le film marchera. Donc, le show business a raison. Puisqu'on peut nous montrer n'importe quoi, il a raison.
Oui, mais c'est pas sa volonté de filmer n'importe comment, que ce soit mal joué, ça, c'est ce que vous dites.
Moi, je trouve ça totalement insultant, la manière dont est filmé le film. C'est-à-dire qu'il y a aussi un...
On peut pas imaginer que ce soit volontaire.
C'est volontaire au sens où je pense qu'il s'en fiche complètement de ce qu'il nous donne à voir. Puisque,
j'ai pas l'impression quand même.
Moi, je trouve qu'en termes de mise en scène, il n'y a rien. Non, c'est de l'enregistrement pur, c'est... bien sûr que c'est.
Mais vous parlez d'une volonté de mal faire quasiment,
bien sûr que
ce qui n'est
si
pas le cas.
Si on interroge Guillaume Canet, il va nous dire qu'il a beaucoup travaillé. Mais le scénario est indigent. Il n'y a personne qui joue bien, alors qu'il y a quand même des grands acteurs. François Cluzet peut être génial. Marion Cotillard est une grande actrice. Il
n'y
en a pas un qui travaille dans le film.
Valérie Bonneton.
Il y a de l'argent, mais personne ne travaille. C'est plutôt ça l'idée du film. Et je trouve. Et en fait, voilà, j'ai été vraiment violentée dans mon métier, dans moi en tant que spectatrice, de me rendre compte que ce show business-là avait encore gagné. Et surtout, ce qui me rend vraiment triste, c'est que je me rends compte qu'il y a une coupure totale, en fait, entre la critique et les gens dans la salle qui rigolent aux blagues homophobes, qui rigolent quand un bouc émissaire se prend une insulte en pleine figure. Donc, c'est qu'il y a, en fait, on constate à chaque fois qu'il y a un film comme ça, cette sorte de coupure extrêmement triste entre un public qui aime ce film, qui passe un bon moment et qui reste pendant 2h15. Il y a aussi ce 2h15 que je trouve extrêmement violent. C'est-à-dire que Guillaume Canet
nous Avengers, sert c'est 2h45 en même temps.
Mais Avengers, si vous voulez, il y a du montage, même si moi je
comprends
rien.
Il y a quelque chose sur la durée qui m'étonne.
Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement prétentieux dans la durée, au sens où il nous dit, voilà, j'ai fait un vrai film puisqu'il fait plus d'1h32 et vous allez voir du Guillaume Canet sur 2h15. Moi, je trouve cette durée, elle fait partie là encore d'une sorte de démonstration de narcissisme, et le film ne tient que sur ce narcissisme du show business. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun personnage dans le film. Hein. Marion Cotillard joue Marion Cotillard, et c'est rigolo de la voir en converse en train de mâcher du chewing-gum parce qu'on se dit ah là là, c'est une star, mais elle mâche du chewing-gum, c'est rigolo. François Cluzet fait son François Cluzet. Donc pour moi, il n'y a pas de personnage, il y a juste les potes de Guillaume Canet qui nous disent bah, vous voyez, on est extrêmement riche, on est extrêmement célèbre. Mais tout à fait, on est extrêmement riche, on est extrêmement célèbre, mais vous voyez, on est comme vous, on boit du pinard, on mange du fromage et on s'engueule, on s'en fout plein la gueule et on se réconcilie. Et ça va vous fasciner en fait de voir des gens très riches, très célèbres, finalement vivre comme nous. Enfin, moi, je ne vis pas comme eux personnellement parce qu'il y a en plus cette logique de quand il se passe rien dans le film.
Mais
quand il se passe rien dans le film, qu'est-ce que fait Guillaume Canet ? Bah, il provoque une engueulade sur un thème au pif. Je pense qu'il les tire au hasard. Donc ça va être vraiment n'importe quoi. Ou François Cluzet est trop riche, ou Marion Cotillard pense que le monde va mal et qu'on mange de la merde. Enfin, c'est vraiment tiré au sort. Et l'engueulade nourrit la machine Guillaume Canet parce qu'il a tout simplement rien à raconter.
Vous prêtez beaucoup d'attention à Guillaume Canet, hein, Muriel Jodé, finalement, vous faites crédit de beaucoup de choses.
Non, je pense qu'il n'a qu'une intention, c'est de se faire de l'argent. Enfin.
Moi, ce qui me...
Thierry Chaise.
Non, c'est cette distance entre critique et public ne date pas de là. Je lisais La Grande Vadrouille, qui se faisait atomiser, et avec des commentaires... Et pareil, des gens affolés disant mais c'est une catastrophe. On ne peut pas dire quelque chose d'intellectuel sur ce film puisqu'il marche. Donc, et je pense La Grande Vadrouille. Je pourrais pas, parce que c'est un anniversaire bientôt. Je pourrais parler d'autres films. Le cas des potes de Guillaume Canet, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 9 ans, il en engage la plupart. Laurent Lafitte n'a pas fait de film. Gilles Lellouche en a fait 2 ou 3. Donc, on ne peut pas, au moment, aujourd'hui, il s'en devient célèbre, mais au départ, quand il les prend, il ne prend pas ses potes riches et célèbres et tout ça. Donc, après, il les reprend. Une suite qui est 9 ans après, moi, je veux bien qu'on surfe sur une vague. La vague, pour moi, est quand même déjà passée. Donc, ce n'est pas une certitude de succès. Ensuite, les gens sont payés. Bon, après, c'est pour ça qu'il faut que ça marche. Comme les followers. Donc, si ça ne marche pas, on pourrait dire ils sont trop payés. Et après, moi, je maintiens que, justement, ce qui est intéressant, c'est le fait que ça marche malgré tout. Alors, là, ça marche. C'est le réenvie des gens. Ça se trouve, le film va s'effondrer en deuxième semaine. Et
j'ai pas en du bouche.
Dans tous les cas, le succès du premier... Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça casse un petit peu, justement, cette logique du film populaire, sympathique et qui caresse le spectateur dans le sens du poil.
Antoine Guillot.
Non, mais quand vous me posiez la question tout à l'heure sur le personnage désagréable, on pourrait parler aussi du personnage déviant. C'est-à-dire que ce qui est quand même affolant dans ce film, c'est que tout le monde est remis dans le droit chemin. On va parler tout à l'heure de Tremblement, mais enfin, le personnage bisexuel est là pour s'apercevoir que quand même le plaisir et le bonheur se retrouvent avec sa femme. Le personnage de mère célibataire, enfin veuve, qui traite mal son fils, se rend compte que quand même c'est important d'avoir un fils et il faut l'aimer. Le personnage de père célibataire fait la même découverte avec son gamin, etc., etc. Tout le monde finit par se réconcilier de manière très forcée, mais vraiment sur le mode, c'est pour ça que je parlais de retour à l'ordre.
C'est l'ordre moral.
Tout à l'heure, c'est retour à l'ordre moral, absolument. Il faut, toute déviance doit être corrigée, et les personnes qu'on ne peut pas corriger, on les envoie dans le décor, on les évacue du film. C'est une vraie mentalité politique et morale qui, moi, me dérange pour le coup beaucoup, mais qui trouve effectivement une adhésion. J'entendais les spectateurs qui sortaient de ce film en disant bah, c'est formidable, c'est drôle et tragique, c'est la vie.
Oui, moi, je me suis demandé si ce nouveau film n'était pas fait justement pour corriger le premier qui, tout étant relatif, n'est-ce pas, à tous égards, était beaucoup moins dans cet ordre moral-là. Il y avait quand même beaucoup de mauvais sentiments qui étaient à l'œuvre. Alors même si la fin était très lacrymale et lacrymogène, il y avait quand même des points de tension et j'ai l'impression que ce film-là gomme tout. Un dernier mot, Muriel Jodé.
Non, sur ce « C'est la vie » dont parle Antoine Guillot, justement, Marion Cotillard, j'ai vu une interview d'elle où elle dit « Mais vous savez, avec Guillaume, en fait, on joue, mais on ne se rend pas compte qu'on joue. Quand la prise s'arrête, on continue la scène parce qu'en fait, voilà, c'est la vie. » Et en fait, cette chose-là, elle vient tout simplement de Maurice Pialat. Vous interrogez les acteurs qui ont travaillé avec Maurice Pialat, ils vous disent tous ce qui intéressait Maurice Pialat, c'est ce qu'il y avait avant le action et le après coupé. Sauf que là, on a une sorte de comment dire, de c'est comme si Guillaume Canet, en plus qui fait référence à Piala par le titre,
nous
tordait.
Nous ne pas ensemble, voilà, grand film de Maurice Piala.
Partait de ce principe-là, mais presque pour le pervertir, pour le tordre, pour le mettre au service, tout simplement, comme je le disais, du narcissisme du showbiz, c'est-à-dire on ne voit pas juste la vie de Prolo ou de Isabelle Huppert et de Pardieu dans Loulou qui jouent des gens ordinaires entre guillemets. On est là pour assister à la vie de gens dont on pensait qu'ils n'avaient pas de vie normale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement pervers dans la manière dont Guillaume Canet pense qu'il fait du Piala, alors qu'il est tout simplement incapable de créer une sorte de dynamique de groupe. Hein, c'est-à-dire qu'il va faire des engueulades, des dîners, on va boire du Piala. Enfin, vraiment, il y a cette idée de faire des scènes à la Piala, sauf que des scènes à la Piala, c'est des scènes filmées à la Piala. Et là, il y a un truc de bon, je sais pas qui filme, donc celui qui parle, je vais le filmer. Et donc la caméra comme ça caresse les personnages, je ne sais pas trop qui filmer. Je trouve vraiment qu'il y a l'idée d'une sorte de perversion, ça pervertit pour moi Piala. Et je trouve qu'il est très conscient de ça. Je pense qu'il se pense comme une sorte de Piala encore.
Ah mais ça ne m'avait pas effleuré un instant. À part le titre, j'avoue que
le c'est la vie en fait, il est très pernicieux
vous
pour
lui
moi.
Prêtez quand même beaucoup trop.
Bah, le titre, ouais, nous finirons ensemble. Il y a vraiment un côté. Je vais corriger Piala. Là, le titre renvoie à nous vieillirons ne nous vieillons pas ensemble, ouais. Ça me paraît assez évident. Donc il corrige Piala à ses yeux. Et Piala marchait autant que Canet à son époque.
Bon, vous voyez qu'on a, finalement, on arrive à dire des choses. Il est 19h24, c'est-à-dire beaucoup plus tard que normalement nous devrions, à un moment, nous devrions clore cette séance sur Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, que vous allez revoir, j'imagine, dans les jours qui viennent. Muriel Jodet, à suivre dans la dispute. Jessica Forever, Tremblement avec Gloria Ben.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au cinéma, hein, paraît-il, Muriel Jodet, avec Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Ginel. Muriel, c'est vous qui avez été tiré au sort pour nous définir le point de départ scénaristique de ce film.
Alors le point de départ, c'est des orphelins, puisqu'ils s'appellent comme ça, des hommes qui ont la trentaine, mais qui sont dans le film vraiment filmés comme des adolescents et qui sont livrés à eux-mêmes et recueillis par une femme, donc Jessica, la Jessica du titre, qui est une sorte de mélange entre Xena la guerrière, une super maman, une reine, une petite amie. C'est la femme idéale et cette femme va recueillir tous ces garçons, tous ces petits garçons, hein, même si ils n'ont pas tout à fait, enfin voilà, ils n'ont pas 12 ans, et elle va les soigner, elle va les choyer, elle va les gâter, et surtout elle va les entraîner, puisque et former une sorte de communauté affective, hein, d'utopie affective, hein, l'idée de l'utopie est très forte dans le film, parce que et cette communauté affective est menacée, traquée par des drones tueurs. Alors je ne sais pas pourquoi.
On va en parler.
Mais en tout cas, il y a cette idée de traque, le film converge comme ça vers une sorte d'affrontement avec ces drones tueurs.
Cette communauté étant quand même constituée de paramilitaires, hein, parce qu'ils sont quand même tous en uniforme, en tenue, armés jusqu'aux dents.
Oui, voilà.
Non, c'est juste pour compléter la toute petite description initiale. Et avant d'en parler plus longuement et d'entendre la bande-annonce, un tour de table pour résumer vos impressions sur ce film dont nous allons parler, Jessica Forever, Antoine Guillot.
Alors c'est une sorte d'homophonie approximative sur Poggi et Vinel, c'est un peu poseur et vain, je dirais.
Bon, Thierry Chaise.
Je dirais que c'est Mad Max dans les zones pavillonnaires de Sous le Soleil.
Bon, Muriel Jodet.
Alors moi c'est un peu pour moi les bisounours au pays de Daesh.
Jessica.
Ça va aller. Tout cet amour, ça a servi à quoi?
C'était ce qu'on avait de plus beau. C'était pour Jessica.
Jessica, Forever. Muriel Joudé, Forever. C'est à vous.
Je ne sais pas par où commencer, mais disons que...
Commencez, puis après on fera tourner
la... Oui, voilà, je vais terminer, puis je commencerai à la fin.
D'accord.
quand je vois le film, je me dis, il y a, et même c'était ce qui était déjà présent dans les moyens-métrages de Poggiovinelle, cette idée de créer un univers à partir d'univers préexistants, d'imaginaires préexistants qui viennent à la fois de la pop culture pris au sens très large. Donc on a, et de décors très hétérogènes, donc on a à la fois un univers d'hyperconsommation avec les centres commerciaux, les supermarchés. On a l'imaginaire Daesh, hein, qui est très... Enfin, on ne peut que penser à Daesh en voyant le film, avec des armes lourdes, des gilets pare-balles, puis la manière dont ce groupe d'hommes, hein, parce qu'il n'y a vraiment que des hommes autour de Jessica, s'avancent comme ça et partent à la guerre. On a aussi le jeu vidéo, on a la banlieue pavillonnaire un peu endormie, on a Gus Van Sant. Enfin, on pense à énormément de choses, avec l'idée, je pense, qu'ils ont derrière la tête, qu'ils vont parvenir à sublimer toute cette matière, parfois impure, dans un même geste, dans un même souffle cinématographique. Et qu'ils vont créer un style à partir de choses préexistantes. Et pour moi, le problème du film, c'est que toute cette matière, impure ou pas, n'est pas pensée par un regard cinématographique. Moi, j'ai vraiment pensé à une sorte de séance de relooking du cinéma français, au sens où on va piocher dans des garde-robes, mais vraiment le terme garde-robe pour moi est très important, très, très différente, et à partir d'un look très hétéroclite, ça va créer un style qui est propre à eux, sauf que ce style propre à eux, pour moi, n'obéit qu'à une logique qui est publicitaire, et même si vous m'autorisez le mot, vraiment pubarde. Au sens
je vous autorise.
Merci.
A posteriori, hein, remarquez.
Merci. Oui, c'est vrai. C'est pour moi, c'est vraiment un jeu de surface. Il n'y a que des images, il n'y a pas de cinéma. Et le film, pour moi, montre bien ce que c'est la différence entre ce que c'est faire du cinéma et faire des images. Et ils ont une conception du cinéma qui est, pour moi, très restreinte, très indigente, puisque toutes leurs images fonctionnent toujours sur le même principe, c'est-à-dire on doit percuter, on doit impressionner le spectateur. Le premier plan, c'est une sorte de maison comme ça, plantée au milieu de nulle part, et puis un jeune garçon qui fonce et casse la vitre, fonce sur la vitre et la brise. Et pour moi, cette image-là représente le film, c'est-à-dire qu'on doit toujours percuter, ce qui fait qu'à force de ne penser qu'aux images, il n'y a ni affect, ni personnage, ni récit dans le film.
Je reviens vers vous, hein. Ne vous inquiétez pas, Muriel. Antoine Guillot.
Alors, si encore ça percutait, ça serait bien, mais ça percute pas beaucoup, c'est-à-dire que ça fait un peu un effet pétard mouillé en permanence. Le début m'intriguait assez, c'est-à-dire j'étais assez preneur de cette arrivée comme ça, intempestive de cet homme à travers cette vitre, ces groupes qui arrivent, le début est très silencieux.
C'est vraiment ambiance assez, pavillonnaire.
Assez mystérieux, dans cette ambiance pavillonnaire, dans un monde complètement déserté, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne. Parfois, on rencontre des gens, mais enfin, le monde est quand même très...
Dans le centre commercial uniquement. Mais...
Très, très vide. Alors, vous parliez tout à l'heure de réutilisation d'images récemment, je crois que c'était dans les cahiers du cinéma, il y a eu un manifeste qui a été signé par Poggi et Vinel, Yann Gonzalez et Bertrand Mandico se revendiquant d'une approche commune du cinéma qui serait sous une sorte d'antinaturalisme, de volonté de romanesque aussi, et de retrouver une sorte de magie cinématographique. Alors ça marche très fort chez Bertrand Mandico qui lui utilise toutes ces images depuis la naissance du cinéma pour se construire un monde rêvé. Ça marche moins bien déjà chez Yann Gonzalez qui utilise les fétiches de ses films des années 70. Et alors là, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire peut-être parce que là, je peux dire qu'un certain nombre de référents sans doute m'échappent, puisque je lis ici et là dans la presse qui est quand même très largement enthousiaste pour ce film, les références à tel ou tel jeu vidéo notamment. Il y a certaines références à des publicités pour des cheveux qu'on lave et qui remontent au ralenti comme ça, qui pour le coup je les perçois.
Ça, mais ça fait 50 ans donc.
Mais ça ne me fait à peu près rien. Moi, ce qui me frappe très fort...
Vous jouez assez peu aux jeux vidéo en fait.
Je dois l'avouer, en tout cas pas aux jeux vidéo de guerre et de massacre, c'est quand même une fascination.
Ah, okay,
non, ça vous le savez. on s'en parlera en antenne.
Cette parenthèse qui s'ouvre devient passionnante. À quoi donc joue Antoine
Guillot ? Je trouve qu'il y a
une
sorte de fascination un peu douteuse, justement, pour tout cet apparat militaire.
Camarade au pied,
et pour ses poses. Et puis, il y a surtout une tendance à la fascination pour leurs propres images, c'est-à-dire qu'ils tentent de sacraliser ce qu'ils font. Régulièrement, on a des portraits de groupes, des sortes de Pietà, toute une série de chromos néo-sulpiciens comme ça, sur lesquels ils s'attardent comme s'ils étaient fascinés parce qu'ils arrivaient à créer. Or, on est en droit de trouver ça assez tarte, quand même, quand on le voit, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a cette tendance, alors là, c'est le côté antinaturaliste, c'est donc de faire jouer les comédiens de manière très blanche. Alors on pourrait dire ils jouent très mal, on pourrait dire aussi ils ne sont mal dirigés, ou on leur demande de parler comme ça, avec ce néo-bressonisme de gens qui n'ont pas compris, à mon avis, grand-chose à Bresson, qui fait que c'est pas possible.
Les référents de Bresson qui trouvent ça bressonien, leur cinéma.
Oui, mais on va dire, voilà, c'est Mad Max ou GTO revu par Bresson, mais c'est un peu la tarte à la crème. C'est difficile de faire du Bresson et que ça passe. Chez Bresson, ça passait. C'est-à-dire, cette voix blanche, ça passait pas toujours, mais souvent. Ça passait, mais parce qu'il y avait un dispositif cinématographique derrière, de pensée de l'image, du montage surtout, qu'on n'a pas du tout ici. Là, ce film se regarde sans arrêt, fasciné par ce qu'il crée. Or, on est en droit de ne pas l'être du tout.
Alors, Thierry Chaise, les auditrices et auditeurs vont dire « Ah, les critiques de la dispute, ils n'aiment rien. » Et encore, on n'a pas parlé du troisième film. Sur Jessica Forever.
Moi, je marchais sur l'intrigue du début. C'est-à-dire que je me dis «
On a tous marché 5 minutes. Enfin,
où est-ce qu'on va
pas,
où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Parce qu'il y a quand même les deux ont quand même beaucoup d'ambition. Ils veulent à la fois, moi j'ai l'impression de faire comment une somme d'individus peuvent faire communauté face à un monde déshumanisé, premier sujet. Non mais qu'ils peuvent aborder. Moi je dis ce qu'ils ambitionnent d'aborder.
D'accord.
Voilà, premier. Le deuxième, c'est un récit initiatique. Alors ils ne sont plus adolescents, mais on a l'impression c'est comment devenir adulte. Et puis le troisième, c'est un portrait, et là je rejoins le côté Daesh, d'une génération Bataclan qui en vient à se radicaliser. Bon. Tout ça, c'est pourquoi pas. Tout ça avec une esthétique, moi vraiment, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo avec des paliers qui passent. Et j'ai aussi l'impression d'être face à quelques. Vous savez, ces soirées où ces gens qui finalement ne vous disent rien. Et parce qu'ils disent rien, ils peuvent paraître très intelligents. Et j'ai l'impression que tout le film fait exactement ça.
Ça a longtemps été ma technique.
Non, mais le film, moi, m'a vraiment fait penser à ça. C'est-à-dire que
c'est dommage qu'on puisse pas le faire à la dispute.
Moi, hein. Non, mais moi, exactement.
J'ai rien dit encore.
Non, mais moi j'aime bien les films où je suis. J'aime les films où je suis perdu. J'aime les films. J'ai pas besoin d'avoir une explication à tout. Simplement là, on donne tous les éléments. On fait en effet les pattes. Il y a quelque chose, cette fascination pour l'imagerie paramilitaire qui quand même prend le dessus. Et là, on se tait, mais ce qu'il montre est que du coup, tous les sujets possiblement, rien n'est forcément abordé puisqu'on ne parle de rien et qu'on laisse le spectateur aux commandes. Sauf que dans les jeux vidéo, si on y joue, à un moment, on a les commandes. Là, on ne les a pas. Et que ça paraît long. Donc, je suis resté, moi, 13 ans dehors en me disant, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait exactement faire.
Alors, j'arrive jamais à relire toutes les notes que je prends dans les projections de presse, hein, parce qu'on n'y voit rien dans le cinéma, donc on griffonne et je n'arrive pas à relire. À un moment donné, j'ai noté gâteau à la fraise. Ça devient drôle, mais est-ce que c'est fait exprès? Et j'en doute, parce que j'ai lu depuis quelques interviews, parce que effectivement, ça m'intriguait qu'il y a un accueil critique qui est quand même, en dehors de cette table et en dehors du Bel Air, extrêmement positive. Alors, tant mieux pour les journaux qui choisissent de faire écrire celles et ceux qui aiment les films plutôt que celles et ceux qui ne les ont pas aimés. Mais bon, donc il y a un très bon accueil critique de Jessica Forever. Moi, je suis passé par plusieurs phases durant cette projection, et depuis, quand j'y pense, effectivement, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu douteux tout ça? D'ailleurs, c'est une des choses que j'arrive à lire sur mes notes de projection. Et c'est surtout pour moi Sophia Antipolis de Virgile Vernier, dont nous avions parlé dans cette émission La Dispute il y a quelques mois maintenant que ce film est sorti, qui avait suscité ce type de débat. Est-ce qu'il y a une fascination pour ces groupes de milices? Parce que notamment dans une des séquences, un des fragments de Sophia Antipolis, qui était un film assez complexe et à mon avis avec beaucoup plus de cinéma à l'intérieur, on voyait la formation d'une sorte de milice dans les rues et dans les environs de Nice, avec des jeunes gens qui voulaient rendre justice par eux-mêmes, etc. Il me semble que Virgile Vernier, lui, problématise beaucoup de choses, amène beaucoup de complexité. Et là, dans Jessica Forever, dont quand même la plus grande absente, c'est Jessica, qui est quand même une figure à peu près occultée, alors qu'elle devrait être centrale. Moi, Je me dis, tiens, c'est intéressant ce personnage de femme, mère, reine, Xenia la guerrière, enfin tout ça. Il me semble qu'elle est quand même pas tellement exploitée. Il y a quelque chose, il y avait une complexité du monde dans lequel on vit chez Virgile Vernier qui me semble pas tout à fait, ou alors je l'ai raté, dans Jessica Forever. Ça nous est donné, il y a des bons, il y a des méchants. Les méchants, ce sont les drones, donc ils sont sans doute pilotés par les autorités, l'État, qui forcément doit être totalitaire puisqu'il ne tolère pas la différence. Enfin, c'est quand même assez simpliste quand même, Muriel Jodet.
Oui, oui, parce que tout est, comment dire, tout est vide. Enfin, ils font pour moi vraiment mumuse avec une imagerie et à partir de là, les acteurs doivent s'effacer en jouant dans une sorte de néo-bressonisme. Après, je pense qu'ils ont derrière la tête vraiment l'idée d'une sorte de Spring Breakers à la française, c'est-à-dire...
Ah non. Tu n'invoqueras pas Spring Breakers en vain.
Non, mais alors justement, bien sûr. Mais justement, en plus, j'ai vu dans le, enfin, il y a vraiment une image avec les,
où
les,
ah ouais, les, ça m'a pas effleuré à l'instant, vous voyez.
Ah si, où les hommes,
c'est comme Piala avec Canet, vous voyez. Moi, on touche pas au,
on touche pas au très grand du cinéma, c'est un peu mon problème.
On touche pas au très grand.
Mais il y a beaucoup d'images qui ressemblent à Spring Breakers avec cette idée en fait que on va faire penser des images clinquantes, vulgaires, impures. On va produire de la pensée. Sauf qu'ils ont l'impression, en fait, j'ai l'impression qu'ils se reposent sur leurs images pour produire cette pensée. Et moi, ce que je trouve assez affligeant, c'est justement tout cet imaginaire guerrier qu'il faut prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'est aussi la guerre au cinéma français tel qu'il ne l'aime pas. Donc on fait la guerre en tant que cinéaste, on fait la guerre dans le film. Mais et c'est là que je parlais de Bisounours, c'est incroyable comment il ne se coltine pas la question de la violence. C'est-à-dire qu'il pense, je pense, à Elephant de Gus Van Sant, avec ce basculement d'une sorte une sorte de glissement de l'indolence adolescente vers quelque chose d'ultra-violent. Ils veulent faire ce passage-là, sauf que la fin, pour moi, je ne vais pas en parler, mais la fin, pour moi, est extrêmement parlante. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose qui n'advient pas parce qu'ils ne savent pas le filmer. La chose qu'ils doivent filmer, ils ne la font pas. Et le film s'arrête au moment où il devrait commencer. Et c'est ça qui est assez terrible. Donc, l'imaginaire guerrier, pour moi, c'est juste une sorte de coffre à jouer, tout simplement.
Vous voulez dire un dernier mot, Antoine Guillot, rapidement?
Oui, alors vous pensez à Sophia Antipolis. Moi, j'ai pensé au Nocturama de Bertrand Bonello. Qui avait provoqué les mêmes mêmes polémiques et qu'on retrouve sur un principe parce qu'ils vont régulièrement faire leurs courses au centre commercial. On se demande d'ailleurs d'où sort un peu leur argent et il y a une grande scène placement de produits où plein de marques sont affichées sur la table du petit déjeuner. Donc ce sont ces sortes de révolutionnaires mis au banc qui se vautrent dans la société de consommation. C'est exactement avec beaucoup plus d'intelligence ce que racontait Bertrand Bonello dans cet excellent film qu'est Nocturama.
Au revoir. Bon, allez voir par vous-même, hein, toujours la même chose. Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel.
What are you doing here?
Can we talk?
I don't have anything to say to you.
I really need you to listen to me.
How could you be so rude, Arnold?
For what?
I was introducing you to my family. I brought you to my son's birthday party,
you
and you had the nerve
you would have done
to just
the same
disappear?
Thing. It wasn't an easy situation.
Really?
I searched for your eyes again and again.
C'est l'heure du coup de cœur, celui de Thierry Chaise ce soir pour Gloria Bell de Sébastien Lelio. J'ai vu plusieurs fois la bande-annonce en salle, beaucoup trop longue, hein, la bande-annonce pour
comme
changer.
Souvent.
Thierry Chaise, de quoi s'agit-il et pourquoi ce coup de cœur?
C'est le remake de Gloria, le film de Sébastien Lelio, qu'il a fait connaître de manière internationale. C'était en 2013, c'était au Festival de Berlin. Son interprète, Paulina Garcia, avait obtenu l'Ours d'Argent de la meilleure actrice. Depuis, sa carrière n'a fait que grandir. Il a eu l'Oscar du film étranger avec Une femme fantastique. Il a commencé à tourner son film précédent déjà avec des comédiennes anglo-saxonnes, c'était notamment Rachel Weisz, Rachel McAdams, et puis Julianne Moore, il y a quelques années, après avoir vu Gloria, lui avait déjà parlé et a eu envie de jouer ce rôle-là. Et donc, en gros, c'est si tu fais un remake, je suis prêt à jouer dedans. L'histoire de ce film ne change pas entre les deux. C'est l'histoire d'une quinca à la fois qui a divorcé, mais qui passe beaucoup de temps de sa vie dans des bals, dans des boîtes, à danser, voilà. Une femme émancipée qui va à un moment rencontrer quelqu'un, un possible amour, et cet amour va peu à peu se déliter. Ce qui est vraiment intéressant ici, ce que j'ai aimé moi, c'est justement ce que fait Julianne Moore de ce rôle. Gloria est au départ pour moi vraiment un film de réalisateur et d'un seul coup, ça devient quasiment un documentaire sur une comédienne de comment quelqu'un s'empare de ce film. Elle est présente, et j'ai l'impression encore plus que Paulina Garcia en original à chaque plan. C'est quelqu'un qui pour moi est capable de vraiment d'être justement de chaque plan, mais de jamais imposer sa présence, qui a une liberté, une finesse. Et d'un seul coup, ça raconte aussi la femme américaine. Julianne Moore a 50 ans, mais apparaît plus jeune que n'était Paulina Garcia. Et le rapport qu'elle entretient avec celui qui tombe amoureux d'elle, qui est joué par John Turturro, n'est pas le même. Il y a quelque chose de plus occidental, de plus américain. Et je trouve que c'est rare comme metteur en scène qui fasse justement deux fois le même film, mais ne bégaye pas grâce à la présence de cette immense comédienne.
Bon, vous écoutez, donne plus envie que regarder la bande-annonce. Hein, je vous assure qu'elle est épouvantable. D'ailleurs, vu plusieurs fois ces derniers jours. Pour cause de dispute. Ça change mon regard sur le film. Et ça me donne encore une fois du grain à moudre sur ma détestation des bandes annonces.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier film à notre affiche pour cette dispute en public depuis le Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est Tremblement de Jairo Bustamante. Antoine Guillaume, c'est vous qui allez nous résumer dans un premier temps. De quoi parle ce film ?
Alors, comme disait Igor Barrère à la télévision en 1973, vous vous en souvenez encore, Arnaud Laporte, ouais. Le film parle de ce problème, ce phénomène troublant et souvent douloureux qu'est l'homosexualité. Il parle comment aussi y remédier dans la société guatémaltèque.
Igor Barrère en parlait pas de la société guatémaltèque.
Non, mais la France de l'époque.
Soyons précis sur les citations.
La France de l'époque ressemble probablement à ce qu'est la société guatémaltèque aujourd'hui. Donc, je résume ça comme ça, mais en fait, on met beaucoup de temps à comprendre de quoi il s'agit, puisque c'est l'histoire. Voulais que j'en dise un peu plus. C'est l'histoire d'un homme qui retourne dans sa famille. Il a commis une faute assez grave, manifestement, pour que toute sa famille, très riche, avec une domesticité nombreuse, lui tombe dessus. On finira par comprendre qu'effectivement, cet homme marié et père de deux enfants, vivant dans le luxe, a une maladie. Il est homosexuel.
Alors, résumé de votre avis critique avant de développer, Thierry Chaise.
Un film angoissant.
Oui, je vous dis.
Oui, angoissant, mais pas pour les mêmes raisons.
Vous lisez dans l'esprit de Thierry Chaise.
Ah oui, peut-être. Bon, je sais pas. On verra plus tard. Mais non, pour moi, c'est un peu comme beaucoup de films, une campagne de prévention. C'est devenu un genre en soi, les campagnes de prévention.
Antoine Guillaume.
C'est donc un film à sujet, comme je l'ai résumé tout à l'heure, mais qui, heureusement, par moments, échappe à son programme.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre.
Anormal.
Yo.
Esto es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte.
Pablo, ¿estás haciendo algo para curarse? Yo sé que en el fondo usted no es así.
Mejor pregúnteles, ¿no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia?
Tenemos el verbo, te pedimos, Señor, para que hoy, Señor, renuncie, Padre.
¿Tú sabes quién es?
Es más joven.
Dios lo hizo a su semejanza. Perfecto.
¡Papi!
Dios ama a los pecadores. Lo que no ama es el pecado.
Pues me prohibieron ver a mis hijos.
¡Rosa! ¡Dame su nombre!
¡Destruyendo a su esposa y a sus hijos!
No tengo nada.
Bueno, ¿yo qué soy?
Que usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que ya está perdida.
¡Hermanos! ¡Hoy vamos a tener un encuentro de mi adorante!
Seis. Admira a tu esposo. Siete. Sé sabia cuando estés peleando.
Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad.
Alors, moi qui n'ai pas encore vu le film, déjà que le son de la bande-annonce quand même est assez pesant. Antoine Guillaume.
Et l'image l'est tout autant. Elle ressemble un peu au tout venant de ce qu'on voit dans ce genre de de films, surtout venant du continent sud-américain. On a une image assez terne, dont les couleurs sont complètement désaturées, pour dire la gravité du sujet. On a des plans qui sont filmés à la Steadicam, assez longuement, suivant son personnage. Enfin, c'est un film qu'on a vu...
Steadicam, une caméra portée, mais qui ne tremble pas.
Voilà.
Qui bouge.
On a vu donc ça à peu près 1000 fois. Voilà. C'est un film qui a... c'est un film de dénonciation, donc qui est dédié à la fin à tous ceux qui, comme Pablo, donc le personnage principal à qui il arrive ce douloureux problème... à tous ceux qui, comme Pablo, ont subi ces traitements anti-homosexuels, qui s'en sont remis et se sont acceptés comme ils sont.
Qui s'en sont remis, c'est-à-dire qui ont guéri, c'est ça?
Qui s'en sont remis de cette,
tous les guillemets,
de ces traitements.
Attention.
Parce que le film montre aussi, et c'est en cela, je trouve qu'il aurait pu, qu'il commence à être intéressant, qu'il aurait pu l'être, ce sont les diverses stratégies qui sont mises en place pour essayer de remettre cet homme dans le droit chemin, sachant que ce n'est pas du tout, c'est peu de le dire, un homosexuel épanoui et heureux de son état. Il en est très, très honteux. On sent qu'il y a aussi des raisons sociales qui fait qu'il se rend compte qu'il perd tout à cause de cette orientation sexuelle. Il perd ses enfants, mais il perd aussi un statut, il perd son travail et il perd un statut social. C'est-à-dire que cette domesticité nombreuse dont je parlais ne lui obéit plus.
Mince
alors. Se retourne même elle contre lui, alors qu'il veut dire, mais c'est moi qui paye quand même. Ben non. Voilà.
Ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Et donc, il y a notamment cette utilisation de l'église, puisque, et c'est assez étonnant, d'ailleurs j'ai lu dans beaucoup d'articles que cette famille était décrite comme ultra-catholique. Or non, elle n'est pas du tout ultra-catholique, elle est évangéliste, ce qui est très important quand on sait la part de plus en plus croissante du point de vue religieux et politique que prennent ces églises sur le continent sud-américain, et pas seulement au Brésil où ils ont porté le président actuel au pouvoir, mais qui sont des gens qui proposent des thérapies. Et qui sont des thérapies qui vont au-delà de la prière et de la position des mains, mais qui sont des stages où on va vous expliquer ce que c'est qu'être un homme, et ça peut aller jusqu'au traitement médicamenteux et la castration chimique. Alors ça, tout d'un coup, on retombe dans quelque chose qui est quand même autrement plus âpre que le film qui va faire l'éloge de la différence et de la difficulté d'être un homosexuel dans un pays conservateur sud-américain. Ce que je trouve très intéressant dans le film, mais c'est dommage qu'il ne le développe pas plus, c'est que ces gens ne sont pas caricaturés. C'est-à-dire qu'ils sont montrés comme des gens qui veulent le bien. C'est les pires, les plus dangereux, sont les gens qui veulent votre bien parce qu'ils savent ce qu'est le bien. Et donc, ils le font par amour. Ils le font par amour, et ça aurait pu être glaçant. Malheureusement, c'est quelques points d'aspérité et de côté vraiment dérangeant, il ne va jamais réellement à fond là-dedans.
Alors, angoissant, avait dit Thierry Chaise.
Angoissant, parce que c'est d'où il filme, c'est-à-dire lui, il est guatémaltèque. Guatémaltèque, c'est 90% de la population qui est croyante, et il y a une mainmise totale, comme le disait Antoine Guillot, de ces mouvements là-dessus. Donc il y a quelque chose de, pour lui, je pense... sans doute qui explique le côté démonstratif, mais il veut montrer ça. Alors c'est un sujet qui actuellement occupe totalement le grand écran. Vu qu'on a beaucoup vu des choses côté américain, c'était Come As You Are, c'était Boy Erased, qui était le premier long métrage de Joel Edgerton, avec Luke Hatchez et Nicole Kidman. Et il y avait dans ces choses américaines toujours, dans la famille, un personnage qui était malgré tout sympathique, la porte d'entrée qui fait que ça allait aider. Et moi, ce qui rend angoissant le film et que j'aime bien, c'est ce côté justement... autour de lui, dans la famille, personne n'est sauvable, puisque tout le monde est persuadé, en effet, d'être dans son bon droit. Et le spectateur lui rentre dans ce film à travers une entrée en voiture, et justement ce long parcours où il va dans sa famille, on se demande quand on voit les gens, mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire ? Et il y a cette montée en angoisse qui existe. Ensuite, il y a vraiment des choses qui, je trouve, ne fonctionnent pas. L'idée de tremblement, ces tremblements de terre, ces secousses successives, qui viennent symboliser des choses où il n'y en a
c'est
pas
léger,
besoin.
C'est léger, quoi, vous voulez dire.
Non, mais en effet, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je crois qu'il y a une volonté chez lui. En effet, c'est un film sur un sujet et qu'il le traite en appuyant par moments les choses, mais par ses personnages secondaires, par cette manière dont est montrée cette thérapie. Moi, je le trouve malgré tout intéressant.
Mais angoissant, a dit Muriel Joudet tout à l'heure.
Oui, en fait, j'aurais dû dire ennuyeux, quoi, parce que vraiment, en fait, comme le disait Thierry, les thérapies de reconversion sont devenues un vrai sujet au cinéma. Moi, j'ai vu les trois films. De force. Et il y avait. Non, mais alors, si on en a vu trois, c'est qu'il y en a plus. Vous voyez, c'est devenu une mode. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément vicié à la base de ce sujet, parce que précisément, là, vous voyez, on essaye de parler du film et puis on est tout de suite.
Sur le sujet.
On parle du sujet, on parle de la réalité. Et pour moi, c'est ça le problème du film, c'est que le sujet est tel qu'il ne peut que tout aspirer. Il aspire tout au sens où le reste est désinvesti. J'ai trouvé l'image extrêmement laide, le format très laid, les acteurs pas très bons. Enfin, il y a une sorte comme si le sujet aspirait toute l'énergie du film et qu'il ne restait plus rien autour. Et ça m'a frappé à quel point, en fait, moi j'ai, contrairement à Antoine, mais je pense qu'Antoine aussi, j'ai compris très vite, enfin, même dès le premier plan, j'ai compris de quoi il en retournait.
Oui, j'ai fait semblant de ne pas comprendre.
Voilà, c'est ça.
J'aurais voulu que le doute soit vous d'ailleurs encore plus étendu.
C'est ça, on comprend tout de suite. Et j'ai été vraiment étonnée que le film et que le cinéaste se suffisent de ça. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une sorte d'énorme récipient et qu'il le remplissait juste avec le sujet et que on pouvait presque tout prévoir. Alors, j'aime presque la fin, en fait, de ce point de vue, parce qu'elle est assez étonnante. Elle dévie par rapport aux autres films sur les thérapies de reconversion.
Encore un film qui finit là où il devrait commencer ?
Tout à fait, toujours. mais comme le disait Thierry, Antoine, il y a toujours des cartons. Enfin, il y a un carton à la fin. Et en fait, il y a toujours des cartons à la fin de ces films sur les thérapies de reconversion.
Et que finalement, il devrait
juste projeter les cartons et on comprendrait en fait de quoi il en retourne. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que veulent ces films. S'ils veulent qu'on s'indigne, s'ils veulent qu'on soit sensibilisé à une question, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un documentaire. Et là, vraiment, ce serait, je pense
que
ça doit
être. Les documentaires entraînent moins de monde dans les salles que les films de fiction.
Bah oui.
Et que si on veut sensibiliser sur la question, alors que ce soit effectivement.
Mais on sort en disant, ah là, quand même, le Guatemala. Enfin, on sort en se disant ça, ah, quand même, le Guatemala, c'est des zinzins, ils sont méchants. Enfin, à quoi sert le film ? C'est ça que je me dis. C'est-à-dire que le film n'est que sur la veine de dénonciation, d'indignation.
Il faut savoir comment le film est reçu dans son
là-bas.
Pays.
Voilà,
c'est ça qui est intéressant. Mais je me demande si le film a un intérêt.
Est-ce qu'il a besoin d'être exporté ?
Voilà. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment vu ce film en me disant, en pensant à ce que disait. Ce qui se dit très souvent, c'est qu'il y a trop de films qui sortent. C'est vraiment l'impression que m'a fait le film. Je me suis dit, c'est un peu triste parce que c'est un film sacrifié.
On a la chance de recevoir ici en France des films du monde entier, mais parfois,
voilà, c'est ça.
Il y en a pour qui c'est moins logique. Enfin,
et on était quatre dans la salle, et je dis pas qu'il faut pas voir des films du monde entier, mais là, je me suis vraiment dit, c'est un film sacrifié et qui aurait peut-être pas dû sortir en France.
Antoine Guillot,
Il a une raison économique de sortir, c'est juste qu'il est coproduit coproduit par Arte France Cinéma, par Memento, et donc il doit sortir en France. On est dans ce cinéma mondialisé, produit par la France, alors qu'il s'adresse, pour le coup, véritablement au Guatemaltèque. Moi, il y a une chose encore qui m'aurait intéressé dans le film, et j'aurais été ravi que le personnage soit développé. Moi, je suis très amoureux de la femme du pasteur. C'est-à-dire, cette femme très bien mise, avec un chignon impeccable, qui est là non seulement pour menacer avec un calme absolu l'amant du malade, pour lui dire, moi je suis pas là pour vous menacer, je suis juste là pour vous rappeler les règles. De manière très calme, lui dire que s'il va un peu trop loin, ça va aller. Voilà. Et surtout qu'il donne des cours de sexualité aux femmes de ces malades, en leur expliquant comment retenir leur mari à la maison, leur expliquant qu'il n'y a rien écrit dans la Bible contre la fellation. Voilà. Et moi, c'est un personnage que je trouve fascinant.
D'accord.
C'est dommage qu'il soit
développé
plus que là.
On en déduira ce que l'on veut. Tremblement, c'est le titre de ce film de Jairo Bustamante. J'ai envie de faire un petit cadeau à Muriel Joudet dans la minute qui vient. C'est de nous parler d'un film que vous avez aimé récemment. Parce qu'on peut se demander à vous écouter.
Ah oui, alors j'ai vu. Non, je conseille.
Il
y a une rétrospective à Pompidou de Albert et David Meisels, des grands documentaristes du cinéma vérité.
J'ai
découvert ça, je ne connaissais pas. Grey Gardens, Salesman, Gimme Shelter, des chefs-d'œuvre. Donc voilà, j'aime des films. Je tiens à le dire
ici.
Ils
ont 30 ou 40 ans d'âge.
Mais oui, mais parce que c'était mieux avant.
Bon, la prochaine. La plus. La plus quoi ? Non, je vais pas dire réactionnaire, c'est la plus jeune de cette table.
On peut le dire, il y a un très bon film quand même qui sort cette semaine, qui est Petrunia, le film macédonien tout à fait passionnant.
La bande-annonce fait peur aussi, je vous assure.
Arrêtez de regarder les bandes-annonces.
Je vais au cinéma, Antoine, je vais
arriver juste à l'heure
ça.
Du film, pendant ce temps-là, aller prendre un café.
J'ai peur après de ne pas avoir une bonne place, vous savez ce que c'est ? Toujours peur d'arriver trop tard. Bon. Donc, la rétrospective des frères Meisels, c'est Petrunia.
Petrunia, film formidable.
Film formidable. Ben, on va changer le sommaire, on refait l'émission, si vous voulez bien. À avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir avant de nous donner sa réponse.
La question était: quelle toile datée de 1921 fut qualifiée par le critique d'art Nikolaï Tarabukhin de dernier tableau créé par un peintre? Et la réponse était Pur Rouge d'Alexandre Rodchenko.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour aller voir le spectacle Fauve de Wajdi Mouawad. Des places à gagner pour vendredi 10 mai à 19h30 au Théâtre de la Colline à Paris. Quelle est la question, Joséphine?
Quelle pièce, écrite par Wajdi Mouawad, a été adaptée au cinéma par Denis Villeneuve et au théâtre par Stanislas Nordet?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Elisa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Jean-Christophe Brianchon et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Charles Bouticourt, Éric Carrère, Xavier Lévesque. Réalisation, Alexandre Fougeron. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au théâtre. Nous serons en compagnie de Marie Sorbier, Anna Sigalevitch et René Solis. Nous parlerons de Electre, Oreste, d'Euripide, mise en scène Ivo Vanov à la Comédie Française. Opening Night, d'après la pièce de John Cromwell et le film de John Cazavetes, mise en scène de Cyril Test, en ce moment au Bouffe du Nord. An Irish Story 2 et avec Kelly Rivière au théâtre de Belleville.